Cascodeur Podcast, épisode 232, version Sloubi. Enregistré le 7 mai 2020.
Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 232. Il fait beau, nous sommes le 7 mai 2020. Et puis, je suis avec Audrey. Nous allons parler des nouvelles de Java.
Bonjour tout
Bonjour
le monde.
Bonjour Audrey.
Salut Manu.
Ça va?
Ouais, ça va bien. Je compte les dodos avant la fin du confinement, comme tout le monde.
Moi, je les compte avant le jour de vacances, en fait. Donc là, demain, c'est plus cool. J'ai l'air cool, une petite pause. Parce que pareil, je me tourne, c'est peut-être la suite du sujet confinement qu'on avait fait, mais mardi, je me suis aperçu que je me mettais à partir en live sur chaque sujet qui n'aurait pas dû m'énerver en temps normal et que je devenais un peu snappy. Et je me suis dit, tiens, il est peut-être temps de prendre un peu de recul. Donc mercredi, je dis bon bah désolé, il y a plein de choses à faire, mais je bosse pas. Et voilà, donc maintenant on est jeudi, donc ça va. Voilà, donc c'est important aussi de se dire oh là là, je sens qu'il y a des signaux faibles ou pas si faibles, et de s'introspecter et de dire hop hop hop, petite pause.
Moi, les signes faibles, c'est que je suis devenue une larve. Je suis crevée. Donc voilà, je pense que on a tous effectivement des impacts. Enfin, ça a des impacts sur nous qui sont différents, mais ouais, t'as raison, faut y faire gaffe.
Alors, on va y aller, on va lancer les news. Et la première news. Audrey a été nommée Java Champion. Bravo.
C'était pas dans les notes en plus. Merci.
Non, j'ai rajouté au dernier moment, tu l'as pas vu.
Ah, tu me fais des feintes. Bah écoute, merci.
Voilà. Alors ça y est, il suffit de rejoindre VMware et on est Java Champion, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est pas un boulot de fond du tout.
Voilà. Non, je rigole. Voilà, c'est ça. Je rigole. C'est un process qui prend un peu de temps avec quelque chose qui est rempli par un autre Java champion, donc c'est José qui t'a sponsorisé.
Tout à fait.
Et puis voilà, il y a eu beaucoup de plus, hein, voilà, bienvenue
merci.
dans la grande famille, hein, en tout cas la famille qui s'agrandit. Ça c'est cool. Voilà. Alors, on va parler des langages d'abord. Et le premier, c'est un nouveau projet autour de OpenJDK qui s'appelle le projet Leiden. Pas trop comment ça s'écrit. Et le projet de Leiden, c'est tout simplement pouvoir faire des images statiques pour Java. Alors, c'est quoi les images statiques? Bah, c'est un exécutable natif pour vos applications Java.
Et là, mais dis donc, ça sent un petit peu le déjà vu, non?
C'est ça. C'est ça. Et puis, c'est un peu Oracle aussi. Non
bah, je sais pas, j'avais l'impression, mais on dirait pas finalement.
Voilà. Donc, alors, attendez, on vous explique, parce qu'on a un petit commentaire snarky, là, mais, Oracle Labs a un projet, qui est maintenant un produit, d'ailleurs, qui s'appelle GraalVM. GraalVM, ça fait plein de choses, dont la compilation native de vos applications. Micronaut vous permet d'aider à la compilation native de vos applis. Pareil pour Quarkus, c'est un point central dessus. D'autres projets suivent là-dessus, Leiden, Spring Boot, travaillent dessus, etc., etc. Et puis là, Reynolds envoie sur la mailing list de OpenJDK, voilà, on propose un projet qui s'appelle le projet Leiden qui fait la description de GraalVM Native Image. Enfin, je simplifie un petit peu, hein, close world, des contraintes close world, ahead of time compilation, etc., etc. Sauf qu'il dit maintenant, on ne passera pas sur GraalVM, on va s'appuyer sur JAOTC, qui est un truc qui avait été fait, JLink, etc., etc. Donc, alors c'est une bonne nouvelle au sens où quand c'est plus proche de OpenJDK, c'est plus proche de Java, donc c'est plus standard et du coup il n'y a pas cette notion de faut que j'aille choisir un outil un petit peu à côté qui est GraalVM versus OpenJDK. Donc c'est globalement une bonne nouvelle. Après, le fait que ça sorte comme ça, c'est un petit peu curieux. Alors Oracle est une grande famille, donc voilà, mais c'est vrai que ça sonnait un petit peu curieux.
Du coup, c'est bien parce que c'est comme dans la vraie vie. La famille, c'est pas toujours tout rose. Ça se tape dessus.
C'est ça. Là, c'est cousin Robert qui a encore déconné. Ouais, donc bah on va voir. De toute façon, c'est une proposition. On en est au début. Il y a des choses qui ont eu beaucoup de succès dans OpenJDK en termes de proposition, d'autres qui ont eu beaucoup moins de succès et d'adoption. Donc on va voir où est-ce que ça va. On va voir comment les gens jouent le jeu. Je vous espérais qu'on va essayer de tous se mettre sur la autour de la table, Oracle Lab et tous les gens qui tournaient déjà autour de cet écosystème de compilation native pour essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc, affaire à suivre. Là, on n'en est qu'au début.
C'est notre nouveau voilà. Dallas. C'est, ça va être...
Sinon, il y avait un article de l'équipe qui travaille sur le ramasse-miettes G1, Garbage Collector, et bah eux, ils ont leur test de perf, et puis ils sont contents de leur test de perf, et puis ils ont vu, alors je sais plus qui c'est Foronix, qui publiait un comparatif de performance entre JDK 8 et JDK 14, et alors il y a plein de différences, mais une des différences majeures, c'est que le Garbage Collector par défaut est pas le même. Et ils ont été surpris, les gens qui travaillent sur G1, parce que c'est pas le genre de retour qu'ils avaient eux. Et là, ils voyaient que en termes d'opérations par seconde, voilà, le JDK 14 était pas aussi bien en fait que le JDK 8. Et du coup, ils se sont dit tiens, c'est curieux, on n'a pas ce genre de résultat. Et donc, ils ont essayé de reproduire et ils ont eu un aha moment parce qu'ils se sont dit ah alors nous traditionnellement on met et souvent c'est ce qu'on recommande pour les gens qui déploient des applications serveurs, on met le JMS, le XMS et le XMX à la même valeur. On dit bah voilà, la JVM, je te donne 4 gigas minimum et max et tu restes comme ça parce que on sait que sur le serveur on alloue cette taille-là, pas la peine d'essayer de réduire, ne va pas augmenter et puis ben comme ça tout est prédéfini. Alors que sur le benchmark, eux, ils avaient laissé la valeur par défaut de XMS et ils avaient effectivement mis un XMX, je crois. Ou pas, non, d'ailleurs, ils avaient rien mis. Et donc, une façon de simuler, c'est qu'ils ont regardé la taille de la machine qu'ils avaient, c'était un 16 giga, c'était affiché dans la production du benchmark. Et du coup, ils ont simulé ça avec un max RAM ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça, max RAM.
Une propriété sympa qui permet de faire ça. C'est ça, XX 2. Max RAM égale 16 Go. Et ça simule une machine qui a 16 Go de RAM et après ça utilise l'ergonomique de la JVM pour choisir le XMS et XMX. Et le XMS, il vaut pas la XMX en fait dans les ergonomiques de base. Il est plus petit, alors je sais pas combien plus petit, mais mettons 2 Go, puis après ça monte jusqu'au 16 maximum autorisé. Et ce qui se passe, c'est que le Garbage Collector G1, c'est un garbage dit multi-région, c'est-à-dire il y a des régions isolées comme ça sur lesquelles le garbage collector va pas faire un garbage collector global de toute la mémoire, mais de certaines régions de la mémoire pour effacer, bouger les objets dans d'autres régions et puis après pouvoir complètement éliminer cette région et en recréer une ou voilà, ce genre de choses. Et ça permet de contrôler la latence, en fait, ou le temps pendant lequel le garbage collector a le droit de passer du temps à faire son boulot sans bloquant l'application. Et comme les régions, en fait, elles sont calculées au moment du démarrage de la JVM, du coup, avec, en gros, la valeur de XMS, l'exécution de l'application était très différente parce que ces régions-là ne sont pas retaillées au fur et à mesure qu'on augmente la mémoire. Donc, on avait plus de régions, j'imagine, mais toujours relativement petites. Et comme le benchmark utilise de gros objets, si j'ai bien compris,
oui.
Eh bien, ça a posé ce problème-là. Du coup, pour le JDK 15 et donc le futur, ils ont changé les ergonomiques pour que l'ergonomique de calcul de la taille des régions prenne en compte que JMX et pas JMS et JMX. Et paf, voilà, c'est corrigé. Donc c'était intéressant. Ils ont pris le truc à cœur, ils ont trouvé le problème et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc, c'était un petit article sympa. Et puis pour ceux qui s'intéressent les garbage collectors, c'est toujours intéressant de lire ce genre de choses.
Et il y avait même un petit effet qui se coule, c'est chouette au passage, c'est qu'ils ont amélioré le temps de démarrage parce que comme il y a moins de régions dans la heap au démarrage, bah, ça va plus vite.
Ouais.
Ça fait toujours plaisir.
Voilà, on va passer aux librairies maintenant. Et alors c'est pas une news technique, mais en tout cas Lucene a 20 ans, donc Apache Lucene. Ça fait 20 ans que le code a été donné initialement à la fondation Apache et maintenant continue. Donc créé par Doug Cutting, qui voulait apprendre Java, qui avait pas mal d'expérience sur les moteurs de de recherche où à l'époque où on savait pas trop ce que c'était un moteur de recherche, lui, on parle de d'une ère limite pré-Google, hein. Et voilà, donc ils ont une petite page qui rappelle toute la timeline de Lucene qui rejoint Apache, la communauté avant tout, comment les contributeurs ont évolué, l'arrivée
de le premier
Apache.
Commit de Shay Banon.
Voilà.
Un moment important. Le papa d'Elastic.
Le CEO de voilà, le papa d'Elastic. Voilà. Et voilà, donc c'est sympa de voir un petit peu tout ça. Les accélérations, donc Lucene, c'était 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, et d'un coup, ils sont passés à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu une accélération en nombre là, donc pas jusqu'à Google Chrome, mais pas mal. Voilà, donc si vous êtes dans l'univers des moteurs de recherche que vous utilisez, que ce soit Elasticsearch, Solr, Hibernate Search, enfin, il y a plein d'outils qui utilisent en dessous Lucene, donc c'est intéressant de voir comment ça évolue tout ça.
Et si vous êtes nostalgique, eh bien, ça se passait sur SourceForge.
Eh oui, bah, Hibernate aussi. Voilà. Je ne me rappelle plus, mais je pense bien.
Et là, voilà, tu vois, je pense que maintenant, on a des auditeurs. Enfin, j'espère. Hein, ça voudrait quand même dire qu'on arrive à embarquer les jeunes, mais qui ne savent pas ce qu'est SourceForge, qui n'ont pas connu SourceForge. Ouais.
D'ailleurs, il y avait un thread rigolo sur Twitter de quelqu'un qui dit. En gros, l'open source est mort, maintenant que tout est sur GitHub et tout centralisé, l'open source est mort. Et ça me rappelle très bien qu'à l'époque, eh ben, tout était sur SourceForge, hein, globalement, parce que c'était
bah ouais.
La forge la plus utilisable. Et puis, d'un coup, ça s'est mis à pas trop bien marcher, et puis d'un coup, il y a eu des alternatives correctes, et d'un coup, il y avait plus personne sur SourceForge. Donc, moi, je suis pas si, j'ai pas si peur que ça par rapport à ça. Donc, GitHub continue à amener des fonctionnalités, on en parlera un petit peu après, parce qu'ils ont fait pas mal d'annonces. Mais c'est pas voilà, moi je suis plus serein là-dessus. Il y a quand même une différence entre le fait que l'open source soit hosté chez quelqu'un et le fait qu'il faille bouger, y compris bouger les issues et les choses comme ça. C'est quelque chose qu'on a fait. Moi, on était sur SourceForge avant, on a fait Jira, voilà.
Il y a le mouvement, il y a l'outil, et c'est pas l'outil qui aura le dernier mot sur l'essence du mouvement en fait. Donc
exactement. Donc voilà, librairie toujours, donc Quarkus 1.4 est sorti, avec plein de choses dedans, le mode command mode, c'est-à-dire pouvoir le démarrer en mode, démarrer comme si c'était une ligne de une CLI, une command line interface, ou le démarrer depuis son IDE, ou le démarrer en mode batch, donc pas forcément avec un serveur. Donc là, il y a la brique fondamentale qui est là, et puis... je sais que la personne de PicoCli a bien regardé les choses pour pouvoir intégrer PicoCli par-dessus derrière. HTTP2, le support a été rajouté. Il y a un nouveau framework de Function as a Service qui s'appelle Funky. Alors, il est pas ou peu documenté pour l'instant, mais attendez des blogs qui vont arriver ou peut-être la version d'après, là, d'ici quelques semaines. Donc, ça supporte, je crois, AWS et Azure. Et puis, il y a quelqu'un qui commence à travailler à la partie Cloud Function, de mémoire, ça intéresse. Google Function, pardon. Voilà, des améliorations au niveau du test et du mock. Donc là, on comprend toujours les challenges des gens. Et bah, je vous encourage d'ailleurs, il y a un autre blog qui parle spécifiquement de comment on fait des tests et mocker là avec les nouvelles améliorations qu'on a fait sur Quarkus. Donc, allez-y. Voilà, pas mal d'autres choses. MongoDB client, la version 4. Donc là, si vous êtes avec des API de la version 3, faites un petit peu attention. Voilà, Amazon Alexa, l'intégration avec LDAP, etc., etc. Donc voilà, la 1.4 est là.
Je peux poser une question?
Vas-y.
Pourquoi l'intégration avec Amazon Alexa?
Eh ben, ça, c'est l'avantage de la communauté. C'est que quelqu'un a voulu faire ça, et donc voilà, c'est fait.
D'accord.
Okay. Donc, on n'est pas...
Tu sens mon enthousiasme, hein?
Oui, bah oui, oui. Non, mais c'est, dès qu'il y a Amazon dedans, toi, c'est...
Oui, non, je sais.
Non, mais c'est ça qui est rigolo, c'est que... Donc, il y a les gens qui sont payés par Red Hat, qui ont un objectif, dont faire bien marcher la communauté. Et c'est clair que là, on essaie d'aller là où on pense que c'est l'essentiel, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'autres gens qui ont aussi d'autres vues, d'autres choses qu'ils veulent faire de leurs applications Quarkus, et donc voilà, qui ont créé une extension et maintenant elle est dispo, tout simplement. Sinon, il y a Micrometer qui sort la 1.5, qui est une long-term support, Je sais pas si tu as regardé un peu dans le détail.
Si, j'ai regardé. Alors, il y a notamment, c'est une version qui va avoir des impacts en termes de compatibilité avec Atlas Graphic et Wavefront. Il y a des nouvelles métriques, notamment en ce qui concerne Jetty, et puis des petites améliorations diverses. Par exemple, Hazelcast Cache Metrics a été updaté pour supporter à la fois Hazelcast 3 et Hazelcast 4. Voilà, des choses comme ça.
Ok. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise pas Micrometer. Donc, ce que je recommanderais aux gens qui font Micrometer, c'est d'avoir un petit résumé un peu plus simple de leur news, parce que c'était... Quand t'es pas dedans, c'est un peu compliqué à parser.
Ouais.
voilà. Sinon, allez, on continue dans les blagues. Spring, ça y est, rattrape ton retard sur OpenJDK en termes de schéma de version totalement incompréhensible. Et donc, je vais te mettre sous le bus et je vais te laisser expliquer ce qui se passe.
Ce qui se passe, c'est qu'on avait des noms de projets, notamment pour les release trains, mais aussi pour les modules. Et en fait, on avait des...
C'est quoi les modules? C'est quoi les modules? Alors, les release trains, c'est que tous les, je sais pas quoi, 12 mois, vous faites une nouvelle version de Spring et vous aviez un petit nom, genre Ada ou ce que vous voulez, c'est ça?
Même pas forcément, en fait, parce que les release trains, je reprends. Donc, les release trains, c'est c'est un ensemble de versions dont on vous garantit qu'elles vont fonctionner correctement ensemble. Donc, par exemple, une version de Spring et une version de Spring Boot et une version de Reactor. Ensuite les modules, c'est les projets en eux-mêmes. Et là, on utilisait effectivement des noms de projets. Alors, tu vois, il y avait un projet où, par exemple, c'était des noms de stations de métro londoniens. Sur Reactor, c'était des éléments du tableau périodique des éléments. Et en fait, on a eu des retours d'utilisateurs comme quoi c'était perturbant. Alors déjà, parce que pour un utilisateur qui n'a pas un alphabet latin comme alphabet natif, l'ordre alphabétique latin est pas aussi instinctif qu'il peut l'être pour un français ou un anglais, par exemple. Donc il y a ça. Et il y a le fait que ça te donne pas vraiment de visibilité sur c'est quelle année en fait ce truc-là. Donc on a décidé de modifier ça et ce qui fait qu'on va avoir les release trains maintenant, ils vont être en calvert et les modules
calvert. Ah, calendar versioning, ok.
Pardon, oui, voilà. Et le...
Bien Guillaume qui aurait pu faire une blague, là, non?
Carrément. Et les modules, eux, passent en SEMVER, en sémantique versioning, avec les modifiers qui vont bien pour les release candidates, etc. Et donc, ça devrait... ça permet aussi, un des avantages qui a été utilisé, donc au-delà du fait que c'est plus inclusif, hein, évidemment, pour les contributeurs qui n'ont pas un alphabet latin natif, c'est aussi que c'est plus simple d'identifier si t'es vraiment à la bourre dans tes versions, parce que par exemple si tu utilises Reactor Californium, tu sais pas que on est actuellement à EuroPM, donc on est à deux versions majeures plus loin. Tandis que là, si t'as l'année, tu prends vite conscience que oula, j'ai pas mis à jour depuis 2017, dites donc, voilà.
Mais concrètement, l'utilisateur, dans son POM, il voit quoi? Il voit le calvaire ou il voit le semantic versioning en termes de version?
J'avais dit de pas poser de questions.
Okay.
Très bonne question, je sais plus. Je sais plus. Mais on a les, de toute façon, en fait, on a les BOM, donc, si tu veux, on conseille de passer par les BOM plutôt.
Et du coup, c'est la question sur le BOM, en fait. C'est que le BOM, il est versionné aussi, j'imagine.
Ouais.
Bon, eh bien, à préciser, peut-être un petit crowdcast d'un français de l'équipe Spring, ça pourrait être cool.
Ouais, je sais que mon tech lead y a passé pas mal de temps. Je t'avoue que moi, j'ai vu toutes les discussions passer et j'étais là, waouh. Ok, j'ai mal aux cheveux là. Je vais retourner déconner.
Allez, parce qu'on parle beaucoup de ces trois-là en ce moment. Donc le troisième, c'est Micronaut. Et Micronaut, ils sont dans leur milestone autour de la version 2. Et donc là, il y a la milestone 3 qui avait été annoncée fin avril. avec le support de Google Cloud Function. Donc ils ont dû avoir une intégration alpha parce que je crois que c'était privé, voilà. Donc ils ont dû discuter avec les équipes de Google. Pareil pour Azure Function, qui je sais plus s'il est là ou il va venir. Non,
il est là. Ouais.
Et la M3, c'est censé être la final milestone avant la prochaine qui sera, j'imagine, la release candidate, quelque chose.
Ouais.
Le gros truc qu'ils ont sorti autour de la milestone M3, c'est Micronaut Launch, qui est en gros comme le Spring Start, le start.spring.io ou le code.quarkus.io. Donc vous allez là-dessus, vous définissez les dépendances que vous voulez et ça vous génère le squelette de votre application, puis après vous pouvez continuer là-dessus. Ils ont un blog dédié qui explique comment ils ont réécrit en gros leur ligne de commande pour pouvoir supporter Micronaut Launch. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà les news autour de Micronaut. J'ai oublié un truc?
Non, c'est exactement tout ça.
Voilà, alors on va passer aux infrastructures. Il y a deux choses. La première, c'est Guillaume Lourdes, qui a pris sa belle plume shakespearienne.
Oui!
Et a écrit, oui, t'as vu, hein?
Oui, je suis trop fière de lui!
Ça. Et qui a écrit un blog sur sur comment écrire des Dockerfiles pour le flow des développeurs, pour le flow de développement. Alors, il y a plein de trucs et astuces là-dedans. Je pense pas qu'on va aller nécessairement dans le détail, à part si tu veux en nommer deux, trois.
Moi, j'ai vraiment bien aimé l'article en toute objectivité, ouais. Parce qu'en fait, il est très simple à lire, il se lit vite, et c'est des petits tips vraiment basiques, mais c'est bien de les rappeler.
Oui, c'est en plusieurs morceaux, on peut s'arrêter au milieu.
Voilà. Il y a le fait d'utiliser des images officielles, il y a le fait de faire des builds incrémentaux, il y a le fait de faire attention aux images que vous utilisez, d'avoir une image précise plutôt que la dernière image. C'est plus facile à débugger.
C'est pour la reproductibilité des builds.
Voilà, et puis aussi pour l'identification, si tu as des failles de sécu, savoir si tu dois patcher ou pas, c'est plus simple quand tu pointes sur une version précise. Et il y a un petit rappel sur le fait de mettre le bon niveau de permission sur vos layers, en fait, et il redonne l'exemple avec le backend node. Donc c'est une bonne petite piqûre de rappel, en fait, je pense.
Ouais, exactement. Et puis dans le côté un peu plus soft news, il y a alors ICANN, je sais pas si vous vous rappelez, mais ICANN avait délégué la gestion de .org à une boîte privée, en tout cas c'était dans les tuyaux, et puis il y avait eu un pataquès parce que en gros c'était le lead de l'ICANN qui avait fait voter ça, et puis dès que ça avait été voté, il avait déjà une boîte, et la boîte s'était proposée pour être la personne qui supportait les points org et qui avait levé pas mal d'argent. Et du coup, en gros, la question c'était comment est-ce que financièrement on peut soutenir un point org pas cher si on vient de lever je sais plus combien de millions de dollars pour supporter cette nouvelle boîte. Donc, le board de l'ICANN a re-regardé tout ça, écouté la communauté, a pris son temps, parce que cette news, elle a quand même quelques mois de mémoire, et ils ont décidé de revenir en arrière sur cette décision et de rejeter la délégation du la gestion du .org à l'equity firm Ethos Capital. C'est une bonne nouvelle. Ça, quand on gueule, des fois il y a des choses qui changent.
Des fois.
C'est bien. Ouais. Non, c'était assez inquiétant, donc c'est cool que ça évolue.
Non, c'est hyper important parce que, enfin, pour moi, ça rejoint les sujets de neutralité du net, c'est que si tu peux pas garantir un accès avec un coût raisonnable et universel au nom de domaine les plus généraux, t'as un problème en fait.
C'est ça. Pas garantir mille fois.
Ouais.
Attends. Désolé. Alors, on va partir au cloud un tout petit peu. Et Google a fait Alors, Google, un peu comme AWS, d'ailleurs, ils ont toujours des nouvelles tout le temps. Alors, ils ont tendance à avoir des release train aussi quand ils ont leurs grosses conférences. Mais sinon, globalement, il y a toujours toutes les semaines un nouveau truc qui arrive. Et donc, quand on utilise beaucoup la plateforme, c'est toujours un peu dur à suivre. Et donc, Google Cloud donc a fait cloud.google.com/release-notes avec un S. Et dessus, vous avez eh bien, toutes les nouveautés, nouvelles fonctionnalités, des choses qui ont changé, des choses qui ont été dépréciées par date. Donc, vous pouvez scroller et regarder tous les mois, bah tiens, j'ai raté ta news, et puis d'avoir des liens dessus, c'est résumé, c'est plutôt intéressant si vous êtes dans cet univers-là. Voilà, on va partir au web, cloud, tout ça c'est un peu flou, mais en tout cas on va partir côté web avec Cloudflare qui a fait des expérimentations pour implémenter le brouillon de HTTP3 et de le comparer avec HTTP2. Alors HTTP2 il était sorti, on avait mis pas mal de temps à le sortir et puis il était sorti un petit peu en accélération. Certaines choses des expérimentations de Google qui avait son fameux projet Quick, c'était Quick. Non, c'était pas Quick d'ailleurs. Enfin bref, il avait pas mal influencé là-dessus. Et puis là, ils ont une idée de HTTP3. Alors HTTP2, le point important, c'était qu'il y avait une seule connexion et qu'on faisait
duplex,
des frames, du multiplexing, ouais, sur cette même connexion. Et donc on pouvait demander 5 ressources différentes en parallèle sur cette même connexion. Et puis les paquets étaient multiplexés et voilà. Ça, c'était une première avancée. Et HTTP3, la grosse avancée, c'est que ça ne s'appuie pas sur TCP. Donc, pour ceux qui connaissent pas, UDP, on peut perdre des paquets. C'est pas garanti ni l'ordre, ni le fait que le paquet arrive. TCP, c'est garanti, et l'ordre et le paquet. Donc souvent, le TCP est construit au-dessus de UDP. Et le web, enfin HTTP, était basé sur au-dessus de TCP. Et Google a fait une expérience avec un truc qui s'appelle Quick, qui est en gros une réimplémentation de certaines fonctionnalités de TCP au-dessus de UDP, mais avec des garanties un peu plus faibles, qui sont plus adaptées au temps moderne, c'est-à-dire que TCP, ça a été inventé dans les années où il y avait 10 mèches, ça, c'est même pas 5 machines sur le réseau internet, et maintenant voilà, on a des flux très très différents, et ces expérimentations là arrivent en partie, en tout cas sur dans le protocole HTTP3, et du coup l'idée c'est de comparer un petit peu ces choses là ça permet de voilà, en fait ça s'appuie sur le fait que quand même la plupart du temps les paquets on les perd pas, et du coup d'optimiser plus le protocole que TCP, qui a des notions de buffer. En fait, on donne des jetons, et quand on a donné trop de jetons à une personne, tant qu'elle nous a pas dit c'est bon, j'ai consommé tel paquet, du coup ça bloque tout. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Donc Cloudflare a implémenté HTTP3, fait certaines expérimentations, et puis ouvre un peu les expérimentations à des gens qui veulent essayer. Et ils comparent en fait HTTP2 telle qu'elle existe, qui est quand même assez robuste en termes d'implémentation, et cette nouvelle solution HTTP3. Il y a deux points. Il y a un point positif, un point un peu moins positif. Donc déjà, dans HTTP3, le handshake TLS, en fait, est amélioré. Non pas la première fois. Le handshake TLS, ça prend un petit peu de temps. Il faut aller chez le serveur qui vous renvoie quelque chose, et ensuite vous mettez à chiffrer la connexion entre les deux, et ensuite vous pouvez envoyer vos infos. Là, l'idée, c'est de garder... Alors, j'ai pas lu le détail, mais j'imagine qu'il garde en gros le même nonce qui a été échangé la première fois qu'un client se connecte à un serveur web. Et du coup, la prochaine fois que vous allez sur le même site, en fait, vous pouvez directement commencer la connexion de manière chiffrée sans faire cet échange. Du coup, ça gagne pas mal de temps, en fait, quand on regarde, il y a quand même pas mal de secondes ou millisecondes. Enfin, en tout cas, il y a le temps initial avant d'avoir les premiers bytes utiles est assez important dû au TLS handshake. Donc ça, c'est une bonne amélioration. L'autre info, c'est que, mais on le savait, c'est que TCP, ça a été beau, les routeurs, etc., ont beaucoup optimisé TCP, et notamment la gestion de quel paquet on priorise par rapport à tel autre, etc. Donc HTTP3 qui s'appuie sur UDP et du coup sur ce nouveau protocole, pour l'instant n'est pas optimisé. Donc il y a pas mal d'expérimentations à faire pour avoir le même type d'optimisation de flux. À ce niveau-là, donc il y a encore un petit peu de travail. Voilà, alors j'ai pris un peu de temps. J'ai essayé de faire plus court la prochaine fois. Autre news.
Ouais, Node.js version 14, qui est une version assez intéressante parce que, alors bon, elle amène l'upgrade à V8 en version 8.1. Il y a également le diagnostic report qui passe en stable. Donc c'est un, en fait, c'est un outil qui vous permet de générer un rapport soit à la demande, soit quand certains événements sont levés. Il y a un async local storage qui arrive en expérimental pour vous aider à gérer le contexte avec les appels asynchrones. Donc là, c'est backporté également en 13.10 et c'est donc une version expérimentale et l'équipe aimerait bien avoir des retours justement sur votre avis sur le design de l'API, sur sa stabilité, sa documentation, etc. Pas mal de changements aussi sur l'API Stream parce qu'elle comportait des ambiguïtés avec d'autres API existantes et ça m'a fait plaisir à lire et je sais que je ne serai pas la seule. Il y a une implémentation expérimentale de WebAssembly System Interface, donc WASI. Et par contre, un petit truc auquel il va quand même falloir faire attention, les warnings qui étaient levés quand vous utilisez l'import de modules ECMAScript sont supprimés, mais le support, lui, reste expérimental. Donc, vous faites pas avoir. Alors, c'est une version qui sera promue long time support en octobre. Donc, pour le moment, elle est pas en mettre en prod. Mais, par contre, l'équipe a envie d'avoir des retours de manière globale. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas l'utiliser en dev.
D'accord. Alors, on va passer à la data. Et il y a un petit article, alors, qui est long. Mais qui est vraiment sympa. Alors, il y a Medium qui dit 19 minutes de lecture. C'est un article qui dit voilà les choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé, enfin sur les bases de données quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur.
Je crois que le titre, mais tu t'es réapproprié parce que je sens qu'il y avait une envie profonde. Le titre, c'est les choses que j'aimerais que les développeurs sachent sur les bases de données à la base.
Ah d'accord, pardon.
Non, mais j'ai senti que voilà, ça t'avait parlé, ça t'avait plu, tu te l'étais approprié, c'est bien.
Ouais, voilà. C'était plus positif, moi. C'était pas genre un petit tapé sur la main, tu vois. Bon, bref. Donc, c'est une personne de Google, de mémoire, qui fait un petit article succinct sur 17 points. Des choses importantes. Donc, je vais juste lire rapidement les 17 points. Je voulais laisser le temps après pour vous d'aller lire cet article ou juste certains de ces points. Et c'est, vous avez de la chance si 99,999% du temps le réseau n'est pas un problème, d'accord. Donc cette idée que le réseau est infaillible est la cause de pas mal de problèmes, donc faut faire attention. La notion de acide, déjà par rapport au NoSQL, il y en a qui sont pas acides, il y en a qui se approprient le terme acide avec des pincettes. Mais même sur des bases de données, acide, ça veut dire des choses différentes parce que les implémentations sont différentes et il faut aller zoomer, il y a pas mal de détails intéressants autour de ce que ça veut dire d'être acide et quels sont les problèmes qui sont évités, en fait. C'est ça qui est important. Quels sont les problèmes qui sont évités à tel niveau de garantie sémantique. C'est le point numéro 3, d'ailleurs. Chaque base de données a, en gros, des consistances et des capacités d'isolation légèrement différentes. Elle explique l'optimistic locking, donc c'est un truc qui dit, au lieu d'avoir un lock au niveau de la base de données qui bloque tout le monde, on fait un lock optimiste, c'est-à-dire je pense que personne va avoir changé entre le moment où j'ai lu la donnée et le moment où je l'écris, donc je fais une comparaison avec une version qui est dans la base de données, et puis si cette version est différente, et ben on me dit bah désolé, quelqu'un a écrit entre temps. On parle souvent des notions de dirty read et de data loss, mais il y a d'autres anomalies dans une base de données en fonction des niveaux d'isolation, donc ça c'est intéressant d'aller zoomer là-dessus. Il y a des gens qui ont passé des années et des années de recherche sur ces choses-là, mais là c'est un petit résumé. Je me rappelle plus ce point-là, c'est ma base de données et moi ne sont pas d'accord sur la notion d'ordre, notamment
j'adore.
D'ordre des transactions qui sont exécutées. Pardon ?
Ouais, j'ai adoré ce point.
Ouais.
La manière dont elle le présente est brillant.
Ouais, et c'est pas l'ordre au sens sort, c'est l'ordre au sens les transactions qui s'exécutent une avant l'autre. Voilà. Souvent quand on dit une seule base de données ça me suffit pas, faut que je distribue ma charge sur plein de bases de données, on fait ce qu'on appelle du sharding. Et le sharding, il peut être fait au niveau applicatif, c'est-à-dire l'application elle sait qu'elle parle à tel utilisateur, donc elle sait qu'il faut qu'elle tape sur la base de données numéro 3. Elle recommande aussi cette idée d'avoir un niveau intermédiaire qui est le load balancer du sharding. Comme ça, l'applicatif n'a pas à prendre ça. La notion de d'ID qui s'auto-incrémente, c'est problématique, notamment quand on a plus qu'un cluster. Ça prend de pas mal de ressources et de, il y a un lock en gros sur la ressource quand vous incrémentez. Donc si vous voulez être totalement distribué, c'est mieux un UUID, ce genre de choses. Des fois, c'est ok de lire de la donnée qui est un petit peu vieille, la stale data. Donc aller réfléchir à vos cas d'utilisation, parce qu'on veut souvent la lune. Et plus, et ça a beaucoup de coûts. Du coup, au final, on fait pas la lune et on fait n'importe quoi. Donc, autant essayer d'accepter des choses très cohérentes. Là, elle va un peu sur des choses compliquées, mais c'est sur les horloges vraies, les horloges virtuelles. Qu'est-ce que ça veut dire et quel problème ça peut poser aux bases de données distribuées. Qu'est-ce que ça veut dire la latence? La latence, ça veut dire plein de choses différentes pour différentes personnes. L'utilisateur, c'est je suis allé sur ton site et puis j'ai commencé à avoir les infos au bout de 15 secondes et toi tu dis non, ma requête elle met 0,3 secondes, donc c'est certainement pas ça. Ouais, il y a pas mal d'autres choses entre les deux. Je me rappelle plus en point 12, donc on va éviter. Elle parle de transactions imbriquées qui peuvent être problématiques. J'avoue que ça là je l'ai pas lu, parce que j'en fais très rarement, voire jamais. Vous savez quoi, je vais vous laisser lire la suite parce que je suis en train de me rappeler de moins en moins des trucs. Ah, s'il y en a un autre sur le Query Planner qui vous apprend plein de choses sur votre base de données et les optimisations, notamment scan, index scan, full scan, ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous encourage à prendre un petit peu de temps à lire là-dessus si vous utilisez une base de données parce que, c'est un bonne piqûre de rappel, en gros. Voilà. Sinon, Redis numéro 6 est sorti. Alors, malheureusement, on est tombé sur la press release, donc ouais. C'est très marketeux, mais derrière, il y a quand même des informations intéressantes. Il y a le support du ACL au niveau des entrées, donc de mettre des droits différents en fonction des gens en termes de visibilité et d'écriture. Redis est connu pour être monothreadé, c'est-à-dire que si vous voulez gérer sur plus qu'un CPU Redis ou plus d'un core, et vous démarrez deux Redis. Donc là, ils ont évolué les choses, donc il y a quand même encore qu'un seul corps qui va aller écrire et lire la donnée dans ce qu'on appelle le data container, dans les bases de données. Mais par contre, l'IO est maintenant multithreadé. Donc c'est marrant parce qu'ils font un peu l'inverse du réactif où l'IO est géré par un seul thread et puis après on délègue à des worker pool en fonction des tâches qu'on a à faire si elles sont bloquantes. Alors eux, ils ont fait l'inverse. Et en tout cas, ça leur permet d'aller un peu plus loin en termes de performance. Ils ont un nouveau protocole qui s'appelle RESP, comme j'imagine Redis Server Protocol version 3. Le 2 va rester là longtemps, donc pour l'instant c'est un petit peu une preview, ils demandent un peu du feedback. Il y a du support de Redis Stream, j'ai pas été trop dans le détail, mais j'imagine c'est du processing sur des événements et du pipeline de processing. Voilà, et attention, il y a certaines fonctionnalités qui sont que pour la version entreprise, d'autres qui sont dans Redis Core, donc à vous d'aller voir, notamment le Active CRDT Support, il est uniquement dans la version entreprise. Voilà, on va passer à l'outillage.
Ouais.
Test Container 1.14, est-ce que tu as lu celui-là?
Tout à fait. Donc il y a c'est pas une grosse version, mais une version intéressante quand même, puisqu'il y a une update du Docker Java en 3.2. Le support R2DBC pour MySQL, MariaDB, PostgreSQL et MS SQL Server. Il y a le support des private registries avec Docker Compose. Et puis il y a l'amélioration de la j'ai pas réussi à le traduire en français. Container reliability pour Couchbase. Alors là par contre, ça amène des petits changements sur l'API, donc vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité. Voilà.
Reliability, genre disponibilité.
Reliability comme confiance, enfin c'est pas confiance, c'est.
Ouais, ok. Alors c'est challenge du jour. Comment traduire reliability en français durant la complexité de ce qu'il y a derrière. Sinon GitHub, alors a fait plein d'annonces. On va en reparler un petit peu après. Je sais plus trop quand, mais on va en reparler un petit peu après. Mais en tout cas, GitHub en termes d'outillage, GitHub est gratuit pour les équipes maintenant. Donc avant, quand on voulait collaborer sur le même repository, il fallait prendre des packages, et être avec des repos privés, il fallait utiliser un de leurs package payant. Et maintenant, c'est gratuit. Donc, en gros, les repositories privées ont un nombre de collaborateurs illimité. Maintenant, c'est en gros le modèle GitLab, au final. On peut downgrader sur le gratuit, mais on perd un certain nombre de choses. Donc, je vous encourage. On a mis un lien sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on perd dessus. Qu'est-ce qui se passe, je me rappelle plus le détail, mais c'est souvent des limites de taille de choses qu'on peut consommer, notamment, ouais, je sais plus. Ah, si, sur les packages qui sont déployés, ouais. On a 500 MB au lieu de 2 gigas de package, on a 2000 minutes de GitHub Action au lieu de 3000, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on perd, mais on peut avoir un petit peu avant de downgrader. Et en gros, bah, on voit qu'il shift un petit peu sur la notion de repository manager, de CI avec GitHub Action, etc. Et donc, j'imagine que leur business model va plutôt vers ça que sur GitHub au sens canal historique du terme. Donc, j'imagine que ces mouvements sont dus à ça. Et puis, ils ont plein de pognon parce que c'est Microsoft.
Voilà.
C'est une bonne question de savoir, parce qu'il y a les autres annonces dont on va parler après, de savoir comment ils financent tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont données de manière gratuite. C'est oui. Beaucoup de ressources pour l'avoir vu faire par d'autres acteurs, y compris nous, il y a pas mal de ressources qui sont dépensées. Justement, les récaps des annonces de GitHub Satellite 2020. Alors, GitHub Satellite, c'est leur conférence qui est devenue virtuelle, du coup, parce que Covid. Et ils ont annoncé plein de trucs, et c'était juste là, c'est ça?
Voilà, c'était hier soir pour nous, heure française, et il y a quatre annonces principales, on va dire. Alors, ils ont lancé CodeSpaces, qui finalement, c'est un IDE qui est intégré à GitHub, qui est basé sur Visual Studio, donc... là le lien avec Microsoft forcément prend tout son sens, mais qui est préconfiguré. Alors je trouve ça intéressant dans la démarche, parce que ce qu'ils expliquent, c'est que tu peux avoir envie de contribuer à un projet et parfois le setup du projet en local sur ton poste pour arriver à le faire tourner et configurer et pouvoir contribuer dessus est assez lourd. Et donc là, tu t'abstrais de ça, puisque tu vas te retrouver avec vraiment un IDE assez complet. Hein. Il y a le support des extensions, il y a de l'autocomplétion, tu as accès au terminal, etc. Donc pour le moment, c'est en bêta limitée, et c'est gratuit pendant la bêta limitée. Et je crois qu'on ne connaît pas encore le plan de monétisation après. Ils ont lancé aussi Discussions, qui est en bêta sur certains projets open source et qui est un espace de conversation au format thread. Donc, ils le voient un petit peu en complément d'une PR. En fait, l'intro, c'est de dire une pull request, c'est pas vraiment un endroit optimisé, on va dire, pour avoir une discussion. Donc il y a l'outil Discussions à côté, et qui a un cycle de vie différemment. Ça se ferme pas pareil qu'une PR, ça peut être ordonné. Donc eux, ils voient ça également comme ça peut servir de FAQ. Bon, j'ai jeté un œil très rapide hier, puisqu'ils mettent un repository en exemple, un des leurs, et je suis un peu sceptique pour le moment, à voir à l'usage.
C'est ce que tu aurais dans une mailing list
Je suis pas sûre.
Alors, on a un mix entre la pull request, où c'est vraiment dédié sur ce sujet-là, puis tu as d'autres sujets où soit tu veux améliorer l'awareness, le fait que les gens soient au courant de ça de manière globale sur le projet, donc tu vas envoyer un petit email, voire tu vas avoir des discussions par email avant d'aller après zoomer sur une pull request qui est un peu de détail. Mm. Non, c'est encore autre chose.
Là, c'est vraiment un fil de discussion, en plus au niveau de l'interface, hormis la première page où tu as cette vision des threads. Je trouvais que c'était très proche d'une discussion dans une PR, en fait, quand tu l'ouvres. Enfin, j'ai pas vraiment vu le. C'est sûrement qu'il faut que je l'expérimente beaucoup plus, mais dans un premier temps, j'ai pas vu le vrai plus par rapport à une PR. Si ce n'est qu'effectivement, t'as cette notion de je peux voter, je peux choisir de faire remonter le sujet, des choses comme ça. Mais voilà.
Il y a comment il s'appelle parce que moi j'ai pas regardé, mais j'ai juste vu un tweet de Patrick Chanozon qui qui retweetait quelqu'un qui disait, discussions, c'est imaginer que votre to-do est public, que n'importe qui peut rajouter des choses, des tâches sur lesquelles vous devriez bosser et vous dire ce qu'il en pense et comment vous devriez faire. Et moi, ça m'a fait un peu peur.
Et là, ça vend du rêve, hein.
Et là, ça vend du rêve, ouais, c'est ça.
Ouais, donc je sais pas. Et tu vois, nous notamment, ce réacteur, on utilise Gitter et pour échanger avec les gens. Et je sais pas quelle est la plus-value de Discussions.
Ouais, mais Gitter, c'est plus comme Slack.
Oui, mais du coup, ça fait un espace de discussion et t'as des threads. Donc, je n'arrive pas à voir quel est le...
Ouais, après, ces outils-là, plus IM, le problème, c'est la recherchabilité et ouais, la persistance, en fait.
Ouais, c'est là où, par contre, effectivement, je l'ai rejoint sur l'aspect, tu peux te servir de Discussions comme d'une foire aux questions. Dans le sens où tu vas pouvoir le rendre ouais, plus navigable. Hey! les deux autres annonces, c'était ce qu'ils appellent le code scanning et le secret scanning. Donc, en fait, le code scanning, il était déjà en place. C'est ce qui permet, parce qu'il y avait eu un rachat, je me souviens qu'on en avait parlé dans un épisode il y a longtemps. GitHub avait, avant d'être racheté par Microsoft, avait racheté une société qui faisait ça, en fait, qui scanne les bases de code. Donc le code.
Poissons dans l'eau.
Donc le code scanning, en fait, il va scanner chaque commit pushé pour vérifier les failles de sécu. Et là, ils ajoutent le secret scanning pour les repos privés. Alors, je crois qu'il était dispo en public et que maintenant il est pour les repos privés. Il y a une histoire comme ça. Et ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas publié par erreur des mots de passe, tout simplement. Ça peut être intéressant. Et puis enfin,
juste là-dessus sur le oui, secret scanning, c'est cool parce qu'effectivement, il suffit d'une erreur. Alors, en plus, ouais, quand c'était public, direct,
ça nous est tous arrivé.
C'est un bon S3, voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est cool. Le code scanning, donc maintenant, GitHub vous fait envoie même des weekly notifications sur les, les CVE qu'on a supposément dans les repos. Pour moi, je le vois plus comme du spam. Alors, je sais que j'ai un certain nombre de projets qui sont des statiques HTML générateurs. Donc, le fait qu'il y ait une CVE sur Ruby, je m'en fous parce qu'au final, c'est du HTML. Mais voilà, pour moi, l'expérience, elle est pas top, mais bon, je sais pas. Du coup, ça serait intéressant, des gens, si vous avez du feedback là-dessus, d'aller sur le Google Group des Cascodeurs, donner votre feedback sur le code scanning de GitHub. Ouais.
Et puis la dernière annonce, c'était les private instances, qui donc, comme leur nom l'indique, sont des instances privées. Et donc ça, c'est plutôt à destination des clients entreprises, hein, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, ils annoncent une meilleure sécurité. Ça va permettre, alors là encore, hein, j'ai monumentalement échoué sur la traduction en français, le bring your own key encryption. Donc j'imagine que ça te permet de redéfinir en fait tes mécanismes de cryptage.
Tu ne fais pas confiance à l'organisation GitHub du tout, et du coup tu amènes ta propre clé de chiffrage. J'ai dit des bêtises parce que là tu dois leur donner la clé, j'imagine. Enfin bref, à creuser. Mais souvent le bring your own key, c'est tu veux pas que la clé soit entièrement gérée par l'autre organisation et tu veux en garder.
Donc voilà, et puis des archives de backup, des choses comme ça. Donc truc que j'ai trouvé quand même assez intéressant pour les. Je pense qu'il y a des clients entreprises que ça peut intéresser effectivement.
Ouais. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Moi, je pense que c'est ça. Si c'est une clé asymétrique, non, mais ça peut être une clé. Bon, c'est intéressant. Faudrait regarder. Mais si c'est une clé asymétrique, tu pourrais dire, voilà, ma clé est publique. Chiffre-le-moi avec. Et il y a que moi qui vais pouvoir le déchiffrer.
On pourra en reparler. C'est-à-dire là, forcément, comme c'était annoncé hier soir et que je crois qu'on a eu l'article de récap à minuit, un truc comme ça, et c'est vraiment juste les annonces résumées.
Il y en a qui sont insomniaques, sinon vous n'auriez pas l'info.
N'est-ce pas? On ne citera pas de nom. Mais du coup, c'est vrai qu'on manque un petit peu de détails pour le moment. C'était les annonces globales. Donc,
ça marche. D'ailleurs, si on a dit plein de bêtises sur le Bring Your Own Key, pareil, un petit crowdcast, ça serait cool. Je pense que je suis un peu en dehors des choux, mais c'est un concept assez fondamental en sécurité. Alors, sinon, il y a un petit article sur Spock 2 versus JUnit 5. Alors, moi, je le trouve, alors j'ai dit un peu à spectre large, c'est-à-dire qu'il est un petit peu léger, il compare de manière très, très à la surface les deux, mais ce que j'ai trouvé intéressant, du coup, c'est pas de dire tiens le Jimmy 5 gagne dans telle catégorie et pas dans telle autre. Ça, j'ai trouvé ça un peu léger, mais par contre, ça vous rappelle un peu les fonctionnalités, ce que fait chaque framework, comment il le fait et un peu les différences. Donc c'est un petit article qu'on peut scanner pour se rappeler un peu les choses. Et des fois, on même si vous n'utilisez que Jimmy 5, il y a peut-être des choses que vous saviez pas ou vous aviez oublié et qui valent le coup. Et puis, au début, c'était rigolo, mais en fait, il y a une certaine praticité, c'est comment contrôler Kubernetes avec Google Spreadsheet. Donc, l'idée, c'est que Kubernetes, en fait, a des API pour voir et contrôler le cluster, notamment bah, tel nœud a été déployé avec un déploiement à 3 instances, désiré 5, et du coup, on est pour l'instant à 3, et du coup, il y a d'autres pods qui vont rentrer en ligne. Du coup, on peut faire ça avec Google Spreadsheet, et quelqu'un a fait ce boulot-là pour visualiser un petit peu ce que l'API vous donne, donc les pods ouverts, le déploiement, combien ont été déployés, etc. Et surtout, vous pouvez modifier la spreadsheet en disant, bah moi, ma cible, c'est 10 nœuds, 10 pods et pas 3, et puis ça va renvoyer cette info au cluster Kubernetes qui va aller atteindre cette cible-là. Et vous pouvez faire des petits calculs de somme et des choses comme ça. Donc voilà. Ça y est, c'est mainstream. Si on peut le faire dans Excel.
C'est, ouais. Je sais pas si c'est si rassurant que ça.
Donc, faites gaffe quand même, ouais. Parce que ça reste votre cluster de prod. Voilà. Donc, si c'est votre cluster de prod, faites gaffe. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique par rapport à la ligne de commande, machin truc, ou l'interface utilisateur.
La ligne de commande, c'est la vie, hein, déjà. Et puis, non, enfin, moi, ça m'a fait flipper quand j'ai vu le truc.
Audrey, tu veux.
Oui, bon, peut-être.
Voilà, Gradle.
Gradle 6.4, ouais, qui arrive avec. Alors c'est une version intéressante parce que elle commence à anticiper le build et les tests des Java modules. Si on regarde, en tout cas la release note, a priori c'est pas hyper compliqué parce que les systèmes étaient suffisamment proches pour que l'intégration soit pas douloureuse. Donc a priori, ce que vous avez à déclarer, c'est l'inférence de passe de vos modules et puis la déclaration en elle-même de votre module. Mais a priori, ça a l'air de se faire bien. Il y a également l'arrivée des...
C'est l'inférence de chemin. Path inference. Mais non, oui. C'est pas les deux, parce qu'en français, ça fait bizarre.
Pardon. Mais tu sais bien que je suis une grosse feignasse et que j'aime pas traduire. Il y a l'arrivée des scripts de plugin précompilés avec le DSL Groovy, donc exactement de la même manière qu'ils existent avec Kotlin, ce qui est intéressant, parce que ça permet de les rendre publiables, testables, etc. Il y a l'arrivée d'un lock unique par projet, ce qui va permettre d'avoir moins de lock quand le dependency locking est activé. Donc en fait, le dependency locking, c'est un mécanisme qui est utilisé pour la création de builds reproductibles, même quand vous avez des versions dynamiques. Et là, ce qui va être intéressant avec ce lock unique, c'est que vous allez même pouvoir décider où le placer. Celle-là, j'ai pas du tout réussi à la traduire. C'est une horreur. Alors, Gradle, en fait, vous donne des messages d'erreur avec des variables en fonction de votre environnement. Et c'est un truc sur lequel il est assez bon et ils ont encore amélioré ça. Donc, c'est le Better Dependency Variant Matching Error Messages. Franchement, si tu me trouves une trad, hein, voilà. Et l'analyse incrémentale est maintenant active par défaut, et vous avez aussi, ça c'est, j'ai trouvé ça assez intéressant, la possibilité de spécifier le nombre de violations max qui va faire tomber votre build.
Ah, notamment genre si tu mets du check style, des choses comme ça. Tu veux pas le faire péter, mais tu veux le faire péter s'il y en a trop.
Ouais.
Ok, on va passer à l'architecture, et il y a un petit article, alors en français, donc ça c'est cool, parce que c'est pas toujours le cas, sur les microservices, c'est trop fort pour toi, c'est de nos amis de Octo, qui explique un peu la tendance qu'on voit en termes d'articles autour des microservices. Donc attention, n'allez pas à microservices tête baissée, c'est utile quand on a effectivement besoin de modularité ou de perf sur des endroits spécifiques et ou d'indépendance entre les équipes, mais ça complexifie votre SI de manière assez significative. Ça veut dire beaucoup plus d'intégration entre applications. Donc si vous étiez une bille en intégration entre applications, vous lancez dans les microservices, vous êtes une énorme bille. C'est pas écrit comme ça dans l'article. Et donc, cette fameuse notion de... en fait, il y a une théorie, je sais pas si ça, non, je pense pas que ça ait été testé par des chercheurs, mais en gros, la théorie, c'est que un système complexe qui marche a toujours eu à l'origine un système simple qui marche, et donc on n'a pas démarré direct avec un système complexe. Et du coup, c'est, on évolue des choses simples vers des choses compliquées, et du coup, l'idée de démarrer en monolithe jusqu'à ce qu'on ait besoin de cette fameuse isolation et d'indépendance entre équipes ou de modularité, etc., etc. Donc voilà. Des drapeaux rouges du genre si j'ai besoin d'une seule transaction entre plusieurs microservices, est-ce que j'ai vraiment besoin de plusieurs microservices entre ceux qui sont imbriqués dans cette transaction, si je veux partager la même donnée entre microservices, genre la même base de données, est-ce que c'est vraiment des microservices, voilà, que il faut quand même une équipe solide de DevOps derrière, parce que dû à la complexité des choses. Après, il explique que les outils ont quand même beaucoup améliorés ces dernières années, donc la taille de l'équipe DevOps et surtout l'expertise a un petit peu baissé, mais elle reste là. Il discute un petit peu de la latence, donc si on fait ça un peu naïvement, ben, si on appelle un microservice, qu'appelle un microservice, c'est trois fois plus long. Voilà, mais c'est un article intéressant pour garder un petit peu un œil critique sur ces choix d'architecture.
Et ne pas se laisser embarquer par le hype-driven development.
Ouais, mais c'est tellement cool. Par exemple, là, le hype, c'est de travailler à la maison.
Voilà, tout à fait. C'est le summum.
On va parler de méthodologie, voilà. Méthodologie. On commence à voir des articles sur comment on va faire maintenant qu'on avait des open space avant et que maintenant on fait du Covid. Alors, c'était un article bien énervé. Je sais pas si tu veux me faire un premier résumé.
Je crois que...
Il était engagé, on va dire, plutôt.
Ouais, je crois que l'essence du message, c'était « Allez manger vos morts, les managers qui ont décidé de faire des économies sur les bureaux ». C'est un petit peu ça. Moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Hein. En fait, ce qu'il explique, voilà, c'est que il va pas suffire d'espacer plus les open space pour diminuer les risques de contagion, que l'open space est une aberration monumentale et que juste va falloir arrêter. Voilà. Il était un peu énervé, le monsieur, hein, je crois, hein, quand il a écrit ça.
Ouais. Et je t'avoue que ça fait longtemps que je suis passé en open space quand je suis en bureau. Je me souviens pas vraiment la vie avant. Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais beaucoup de discussions orales, l'open space, il faut avoir des salles de réunion adéquates parce que sinon c'est problématique. Tu gênes trop de monde. Et sinon, ça me, je sais pas, j'ai pas l'impression de que ça me gêne plus.
Ça dépend beaucoup de la taille de ton open space, en fait. Moi, j'ai vu travailler dans des open space où qui étaient très grands et où on était 5-6 et c'était très très agréable. On avait des vrais bureaux. Enfin, au contraire, t'es avec ton équipe, c'est cool. Et puis, je crois que ma pire expérience, c'est un open space où on devait être 13, tassés les uns sur les autres, deux projets en parallèle. Alors là, c'était l'enfer. Là, franchement, tu finis par te taper dessus. Donc, je pense que ça dépend surtout de ce que tu mets derrière le terme open space, des conditions de travail que tu mets derrière.
Si tu as quelqu'un d'un peu dissipé, bruyant, pour le coup, il abîme la concentration de tout le monde. C'est ça aussi. Voilà, en tout cas, lui, il parle pas mal sur l'angle santé. Et il va un peu plus loin que le Covid. Mais en gros, il dit espacer des fameux mètres 50, c'est pas ça qui va résoudre le problème de l'open space. Le mètre 50, il est dans un espace non confiné. Là, un open space, il est confiné par définition. Alors là, on va rentrer dans la partie intéressante, dans la partie loi, société et organisation, et on va vous parler des fameuses applications qui sont censées détecter, enfin plutôt de notifier les gens qu'ils ont été en contact avec d'autres personnes qui sont atteintes du Covid. Mais sans poser de problème de qu'on appelle ça de vie privée, voilà.
C'est
une production de ouf là. Alors, Apple et Google travaillent ensemble pour fournir un framework qui va permettre à des applications d'État d'aider à faire ce que j'expliquais, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été en contact un peu prolongé avec quelqu'un qui se déclare Covid positif pourra être notifié. Et tout ça en gardant en faisant le plus possible le respect de la vie privée. Il faut savoir, alors sur Android, je sais pas, mais en tout cas sur Apple, vous pouvez utiliser. Alors il y a un truc déjà qui est peu connu, c'est Bluetooth LE. Il y a un truc qui est hyper cool, c'est que, enfin, ça dépend à qui tu parles, mais c'est qu'on peut voir les autres éléments Bluetooth locaux et de voir la distance, en fait. Est-ce qu'il est très près de moi, très loin de moi? Et en fait, ça a fait un peu un mesh network géant, potentiellement. Un usage assez curieux, c'est Waze. Alors, on l'utilise plus en ce moment, mais quand on avait...
Dans la vie d'avant.
On l'utilisait, voilà. On avait Waze. Et Waze, en gros, quand on était dans un tunnel, il marchait encore. Et il marchait encore parce qu'il faisait un mesh network entre les Bluetooth de tous les gens qui avaient Waze démarré entre les deux morceaux du tunnel. Et en gros, globalement, ils arrivaient à estimer vaguement où on était dans le tunnel. Quand on utilise les grands tunnels là autour de l'Île-de-France, c'était pratique. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un peu abusé, donc je l'ai désactivé. Mais effectivement, on ne sait plus où on est. Et en tout cas, Apple a mis une certaine limite. C'est-à-dire qu'on peut, savoir un peu... savoir où sont les autres éléments Bluetooth, mais on n'a pas le droit de pousser ces informations sur le serveur de l'application quand on est en mode background. Donc c'est-à-dire quand l'application est effectivement visible sur l'écran, on peut faire un peu ce qu'on veut, de ce que je comprends, mais si l'application est dans le background, l'application n'a plus le droit d'aller envoyer ces informations-là au serveur de l'application. Et donc ça embête une implémentation qu'on va dire naïve du fameux analyse de qui a été contacté positif au Covid. C'est que, mettons que je suis positif au Covid, je le sais pas, et je vois Audrey, on a tous les deux nos téléphones, il y a un Android, un Apple. Et puis ensuite je rentre chez moi et puis je m'aperçois que je suis malade, je suis testé positif. Je vais envoyer mon information, je suis testé positif, ça va l'envoyer à Stop Covid. Et Stop Covid, c'est un serveur central. Alors je dis Stop Covid là parce que c'est l'exemple qu'il y avait, mais c'est un serveur central qui va collecter le fait que, ben, à un moment, il y a l'ID d'Audrey et l'ID d'Emmanuel qui étaient ensemble l'un près. On upload tout ça, et puis quand Emmanuel dit, ben moi, je suis malade, eh ben, Stop Covid, l'application va pouvoir notifier Audrey que elle a été en contact. Mais ça veut dire que Stop Covid, il a beaucoup d'infos. Il a l'info qu'Audrey et Emmanuel, ils étaient ensemble à un instant T ou plusieurs fois. Bref. On imagine bien le tracking au sens du bon polar, en fait, ou de la Chine. voilà. Donc ce qu'a fait Apple et Google, c'est d'essayer d'offrir un framework qui évite ces problèmes-là. Donc ça s'appuie sur Bluetooth LE, donc la même technologie que j'ai dit. Ça n'envoie pas d'infos sur un serveur central, en tout cas avant qu'on estime qu'on soit malade. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, toutes les 10 000, alors j'émets un ID qui est l'ID Emmanuel, Emmanuel 1. Et toutes les 10 minutes, cet ID, qui est aléatoire, il est régénéré. C'est-à-dire que si on a l'ID Emmanuel 1, en vrai, on ne sait pas que c'est Emmanuel. On a juste un UUID qui est unique. Et donc le téléphone d'Audrey, il écoute tous les UUID qui passent. Donc il voit qu'il y a l'UUID 1, 2, 3, 4, là, qui a été notifié parce que pendant 10 minutes, elle était à côté du téléphone d'Emmanuel. Mais elle ne sait pas que c'est le téléphone d'Emmanuel. Et puis surtout, mon téléphone, au bout de 10 minutes, il va envoyer 7, 8, 9, 10. Enfin, aléatoire. OK. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, le téléphone d'Audrey, il garde pendant 14 jours tous les UUID qu'elle a croisés. Et puis, donc Emmanuel, il rentre chez lui, il s'aperçoit qu'il est malade. Donc là, il se déclare malade. Donc là, il va envoyer une information à un organisme d'État en disant, voilà, en fait, je suis malade, voilà tous mes identifiants. Pendant les 14 derniers jours, voilà les UUID uniques que j'ai envoyés. Et là, ces UUID uniques, ils vont être envoyés à tous les téléphones dans une région donnée, j'imagine. Et donc, Audrey va recevoir ces UUID, va pas savoir qui c'est, Google va pas savoir qui c'est, Apple va pas savoir qui c'est, mais elle va recevoir une collection de UUID qui sont déclarés Covid positifs. Et Audrey va dire, ah bah tiens, ce UUID, moi je l'avais stocké, je me rappelle, 1, 2, 3, 4. Et là, l'application va pouvoir dire, ben, vous, pendant 10 minutes, vous avez été en contact avec une personne qui a été malade, tel jour, et pas plus. Voilà, donc ça permet pas à Audrey de savoir que c'était moi, et surtout Audrey qui se déclare pas Covid positif, toutes les informations restent au niveau du téléphone et ne sont pas envoyées sur un serveur. Donc ça, c'est un point important. Pour une personne qui se déclare Covid positive, elle est obligée d'envoyer ça à une autorité qui va faire en gros le dispatch et le re-renvoi de cette collection de gens qui sont malades, enfin de du UID de gens qui sont malades. Et du coup là-dessus, il y a un peu un leak d'information, ce que j'ai compris. Il n'y a pas de solution aujourd'hui là-dessus, en tout cas avec la solution Apple. Donc ça, c'est la solution Apple et Google qui sont ensemble pour faire cet outil-là. C'est bon ? Je crois que j'ai à peu près bien résumé ?
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et on passe à la suite.
Et voilà, et c'est là où les choses deviennent...
C'est côté dramatique.
C'est pas assez dramatique, je pense, mais... Donc, alors, vous l'avez certainement vu, il y a un bras de fer qui s'est engagé entre l'État français, finalement, et Apple et Google, puisque...
Et anglais. Hein.
Alors, oui, c'est-à-dire... au départ, il y avait aussi l'Allemagne, mais l'Allemagne a fait demi-tour. Donc, il y a plusieurs pays européens qui travaillaient sur un autre protocole d'identification qui lui s'appelle Robert, pour Robust and Privacy Preserving Proximity Tracing. Donc effectivement, Robert, c'est le protocole que l'État français souhaiterait utiliser. Les Anglais ont en effet fait le choix de ne pas utiliser les outils mis à disposition par Apple et Google et de... Alors, ils ont pas pris Robert, mais ils ont fait un truc custom aussi, et ça marche pas très bien, on en parlera tout à l'heure. Et donc, forcément, il y a une question. Donc, ça fait un petit peu naïf, parce que, évidemment, on se doute bien que Apple ne va pas céder face à l'État français. Je pense qu'il céderait déjà pas si c'était l'Union européenne tout entière qui était mobilisée, mais face à l'État français, ça paraît complètement stupide. Et forcément, il y a beaucoup, je me suis, en tout cas, moi, posé la question de me dire, mais pourquoi l'État français tient absolument à imposer la solution Robert. Et dans un premier temps, je pensais naïvement, puisque quand même c'est une solution qui est développée par l'INRIA, et donc a priori des gens quand même pointus. Et c'est vrai que sur le papier, la solution peut paraître très sécure, mais en fait, elle a plusieurs failles de sécurité, bon, comme le DP3T, hein, on le sait. Étant donné que c'est notre métier, en vérité, tu n'as aucune solution qui est complètement sécure. Mais
parce
effectivement,
final, c'est quand même un navigateur qui envoie, enfin, c'est quand même un téléphone qui envoie l'info à un serveur. Et du coup, comme de toute façon les opérateurs sont les opérateurs d'importance vitale, etc., loi de sécurité, machin truc. De toute façon, lier le fait qu'un téléphone a envoyé telle information à tel moment à la dite information, c'est pas très difficile.
Voilà, c'est en France, c'est ce qu'on appelle les réquisitions administratives. C'est ce qui est fait, par exemple, dans le cadre de la Hadopi pour connaître l'IP, votre IP, lorsque vous avez téléchargé illégalement du contenu. Et donc, il y a ce premier problème-là, en fait, c'est qu'effectivement, c'est absolument pas anonymisé. En réalité, hein, l'État va tout à fait savoir qui vous êtes, malgré les processus d'anonymisation qui sont effectués derrière. Et en plus, c'est ce qui en découle et qui est réellement problématique, c'est que l'État va avoir connaissance de vos relations. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement connaître vos déplacements, il va connaître les personnes avec qui vous avez été en contact, pendant combien de temps, etc. Et le risque, c'est que même si le service de l'État qui va être en charge justement de vous annoncer si vous avez été en contact avec une personne infectée, même s'il a été conçu et analysé par des acteurs indépendants, il n'y a rien qui empêche les autorités de modifier le service quand elles le souhaitent. Donc, le danger derrière, c'est que ça pourrait très bien être un outil d'assignation à résidence qui ne dirait pas son nom et qu'on ne pourrait pas contester puisqu'on n'aurait pas accès à ces... Déjà, les réquisitions administratives, elles sont faites sans intervention de la justice, donc ça se fait sans qu'on le sache, et on n'aurait pas accès aux modifications qui seraient apportées dans ce sens. Et alors, on vous a mis plusieurs sources. Il y a notamment une déclaration de Cédric Haut qui a été faite, encore une fois, sur Medium. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec Medium, mais je trouve ça profondément agaçant que les secrétaires d'État au numérique fassent leur communication sur Medium. Alors, cette déclaration, elle vient...
C'est hype.
Ouais, c'est hype.
Insta, mais pour une... fait sur Insta, et voilà, c'est tout.
Pour une communication de secrétaire d'État, ça me paraît juste tellement irréfléchi, c'est... Bref. Puisque dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que l'application, elle devait être présentée au vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière, les 28 et 29 avril, dans tout le projet de loi déconfinement. Et en fait, l'application a été sortie du projet de loi déconfinement pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y avait un tel flou autour de toutes les conditions qui sont indispensables. Alors, on les avait énumérées dans l'épisode précédent, l'épisode news précédent, l'épisode 230. Mais donc, il y a un certain nombre de conditions à réunir qui sont absolument indispensables pour garantir que cette application ne soit pas dangereuse d'un point de vue démocratique. Et en fait, le cahier des charges était tellement vide que l'État ne pouvait pas... Enfin, c'était un peu irresponsable de présenter ça comme ça au Parlement. Donc, ils savaient qu'ils risquaient vraiment de se faire envoyer promener. D'autant plus que bien que l'Assemblée nationale soit majoritairement favorable au gouvernement, puisqu'elle est majoritairement République en marche, il y a beaucoup de députés qui sont opposés à cette application. Donc, ils savaient que ça allait pas passer en l'état, ils l'ont sorti. Là, ce qui se passe, c'est que l'application, elle devrait être prête pour le 11 mai. Mais c'est-à-dire qu'elle sera simplement fonctionnelle, elle sera pas mise en service. Elle sera à ce moment-là présentée à l'Assemblée nationale pour une dispo publique début juin. Alors, les acteurs qui travaillent sur l'application, on les connaît, et enfin personnellement, c'est pas tellement de nature à me rassurer, parce que il y a du Capgemini, Dassault Systèmes, Orange, Atos, Thales, Sopra Steria. Donc moi, quand je vois quelqu'un comme Dassault Systèmes engagé dans le truc, je suis pas hyper rassurée, Orange non plus d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant dans la déclaration de Cédric O, c'est que il apporte des précisions sur justement une partie de ces zones de flou qui ont fait que le projet n'a pas été présenté au vote. Donc, notamment, il précise qu'il y aurait aucune donnée personnelle collectée, qu'il y aurait pas de géolocalisation, il garantit que ça sera juste du Bluetooth, que ça serait utilisé de manière volontaire, de manière temporaire, que le code serait open source, qu'il serait placé sous la surveillance d'un comité de suivi et de transparence. Moi, les points qui me font un peu tiquer, c'est que il pense notamment aux personnes, puisqu'effectivement tous les gens, enfin tu peux pas avoir un grand taux d'utilisation puisqu'il y a une partie de la population qui n'a pas de smartphone. Et là, on commence à parler de boîtiers ou de bracelets pour ces personnes-là. Et moi, ça me fait un effet, ça me rappelle les bracelets qu'on utilise dans le cadre des dispositions de liberté conditionnelle, je crois, où ouais. Les personnes peuvent être soumises au port d'un bracelet électronique. Donc un peu bizarre. Donc ça c'était intéressant, mais la déclaration en elle-même est pas forcément. Enfin, moi ce que j'ai pas tellement aimé, c'est un avis tout à fait personnel, mais c'est qu'à un moment il dit oui, bah c'est ça, vous choisissez, soit vous voulez des morts, soit on met l'application en route. Bon, faut garder un truc à l'esprit, c'est que comme ça a été énoncé par plusieurs scientifiques, le virus, il se propage pas par le Bluetooth. Et la corrélation entre une proximité Bluetooth et la transmission effective du virus, elle reste complètement incertaine. Donc, c'est quelque chose qui peut nous aider dans une certaine mesure, mais on peut pas être sûr que ça aura un impact aussi majeur que ça, que ça permettra de sauver des millions de vies, etc. Et puis, pour vous donner un état de un petit tour d'horizon en fait de ce qui s'est passé à l'étranger, la Belgique de son côté, elle a complètement laissé tomber l'idée d'une application. Elle se repose entièrement sur les tests faits en physique. L'Allemagne, qui avait travaillé malgré sur le projet Robert, a rejeté le protocole. Elle lui préfère des P3. Donc ça fait que maintenant au niveau de l'Union européenne, la France est seule sur le plan politique pour défendre cette position. L'Union européenne, elle, de manière générale, elle n'est pas du tout pour cette approche qu'elle juge beaucoup trop dangereuse, ce qui n'est pas très étonnant quand on voit les lois un peu abusives qui ont pu être votées, notamment en Roumanie, liées à l'état d'urgence Covid. Le Royaume-Uni avait également fait le choix d'une approche maison et en fait, le problème, c'est que sur Android, ça revient à demander l'accès à la géolocalisation, parce que ça se trouve, l'accès au Bluetooth qui tourne en background, c'est le même set de permissions. Donc, on se retrouve à demander l'accès à la géoloc aussi. Et comme c'est Palantir qui a développé l'application, alors là, on a un combo gagnant. Et à Singapour, qui avait été présenté en modèle un petit peu, puisque d'abord, ils ont une population qui est hyper connectée, ils ont été les premiers à le faire, etc. Et c'était sorti avant le projet Apple-Google. Bah, l'application, elle n'a pas fonctionné. Parce que ce qui se passe, c'est que l'utilisation, elle est impossible. En fait, l'application, elle doit tout le temps tourner à l'écran. Ça vide les batteries, ça permet pas d'utiliser le smartphone correctement. Bref, ça a été un échec complet. Et du coup, ils sont maintenant sur une solution qui est extrêmement sympathique, là aussi volontaire, mais qui restreint fortement tes libertés, puisque maintenant, pour avoir accès à certains magasins, à certains lieux publics, à certains moyens de transport, bah, il faut scanner un QR code en rentrant. Voilà. Donc, affaire à suivre et on vous tiendra au courant.
Ouais. Après, en fait, l'alternative, c'est des équipes qui font le retraçage. Donc, ça reste volontaire, mais c'est du retraçage rétrospectif.
Ce qui arrivera de toute façon, hein, ce seront les fameuses brigades sanitaires. Et elles auront deux autres applications bien spécifiques et qui seront liées au fichier de la CPAM. Donc,
Et elles ne pourront pas faire du traquer avec, mettons, l'équivalent du Apple, parce que moi, Apple aura notifié, Audrey est sur Android, donc Google aura, enfin, la notification Google arrivera, mais cette équipe, elle sera pas au courant de ça, puisque par définition, en fait, Audrey, tous les jours, elle télécharge toutes les infos, et elle vérifie si elle fait partie des... Elle a rencontré des gens qui sont positifs. Donc en fait, l'info, elle n'est pas là. Donc ils vont devoir de toute façon refaire le travail. Alors, on est hyper labour et on a d'autres choses à faire. En gros. Moi, j'avais un outil de l'épisode, mais on va le garder pour la semaine prochaine. Mm-hmm. Pareil pour la rubrique débutants.
Ouais, pareil.
Pas trop la guerre. Les confs, ben, en soi, c'est un peu compliqué de toute façon. Je voulais juste rappeler la conf Frontside de Romain. C'est, on l'a interviewé sur BIM, mais il fait une conf Frontside qui, croisons les doigts, arrivera le 15 octobre en France. Donc voilà, frontsideconf.fr, tout ça attaché. Voilà, et puis on va se dire faire des bisous à distance et puis à la prochaine.
Des checks du coude.
Des checks du coude à distance.
Geste barrière, Manu, geste barrière.
Ouais. Et puis avec des masques.
Voilà.
Ça marche. Merci à tous.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.